Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Baptiste Antoine,
Pierre Plantier.
Bonjour, bonsoir. Il a joué avec de très grands noms du jazz et de la pop, partagé son art du clavier par-delà les océans. Il est profondément jazz, profondément universel, profondément malien. C'est aussi un monument de la musique mandingue que nous recevons aujourd'hui pour un album tout en cordes sensibles. Ses cordes vocales, bien sûr, avec ce timbre groovy imprégné de soul, et celles de son piano, dont les touches blanches et noires, activées par son toucher expressif, rendent successivement hommage à ses racines mandingues, au jazz new-yorkais ou au chantre de la négritude, comme Aimé Césaire ou Birago Diop. Cheikh Tidiane Seck est avec nous, Kelena Folie. Le nouvel album de Cheikh Tidiane Seck est disponible chez Kobos et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Cheikh Tidiane Seck.
Bonjour.
Un premier disque piano solo en presque 50 ans de carrière, c'est un sacré événement. Pourquoi est-ce que vous avez attendu autant avant de vous retrouver justement en tête à tête, si j'ose dire, avec votre piano?
Et parce que bon, toujours, de tout le temps, toutes ces années, quand je vois un piano isolé quelque part, je pianote, je joue. Et ça plaît aux gens. Et donc, même surtout dans des gares, maintenant, depuis quelques années, on met le piano, je joue. J'ai vu que réellement, oui, pourquoi ne pas se prêter à cet exercice-là aussi? Jouer du piano, pur et simple. Bon, j'en ai fait à Genève, avec mon grand frère Rélément. Et j'en ai fait à Cologne, à Marseille aussi. Et donc, là, récemment, à la Villette, jazz à la Villette, et bon, j'ai vu le rapport que j'ai avec l'instrument et avec le public aussi. Ça m'a vraiment convaincu du choix.
Ne me dites pas que vous avez offert des concerts gratuits comme ça aux gens qui se trouvent dans les halls de gare, juste quand vous avez vu passer un piano à côté de vous. Vous l'avez déjà fait?
Si.
Ah, c'est extraordinaire, oui, ça. Ils ne se sont pas forcément rendus compte de la chance qu'ils avaient de vous entendre, Cheikh Tidiane Seck. Alors, le titre de cet album, c'est donc Kelena Folie, je le disais, c'est du bambara, évidemment. Oui. En français, ça peut se traduire par s'exprimer seul en musique. Est-ce que être seul, ça change tout?
Oui, ça change tout parce que c'est notre positionnement, c'est notre conditionnement et on prend, disons, on vit encore plus intensement l'instrument que quand tu joues dans une écriture d'orchestre. Et donc, ça m'a. Et en plus, le piège a été que la maison de disque, ils m'ont pas laissé le choix de préparer ça à outrance, ça veut dire répéter tous les jours. Non, je suis arrivé en 2 jours, le temps de m'acclimater, j'arrive de Bamako, le lendemain j'étais en studio.
Oui, studio Pigalle à Paris.
Pigalle à Paris pour 2 jours, en 2 jours j'ai fait tout l'album.
C'est beaucoup de pression en 2 jours, non?
Énorme, mais bon, en même temps... peut-être que, oui, après, tu sais, tu te dis, ouais, mais attends, mais il fallait. Non, il fallait pas. Ce qui a été couché, c'est ça qui vivait en moi, en ce moment-là.
Alors, quand on ouvre la pochette de l'album, quand on prend le disque en main, quand on enlève le disque pour le placer dans son lecteur de CD, on découvre une photo.
Oui.
Alors, pas une photo de piano, mais une photo en gros plan de vos mains, de vos deux mains, Cheikh Tidiane Seck. Quel regard est-ce que vous portez sur vos mains?
Mais le regard, un regard de respect et un regard d'amitié et surtout un regard d'abnégation.
D'abnégation.
Oui.
C'est vrai que c'est évidemment par les doigts que passe l'émotion au piano. Comment est-ce qu'on acquiert un bon toucher? parce que le vôtre est impressionnant. On l'entend là dans chacune de vos notes, c'est extraordinaire. On a l'impression, même si vous avez enregistré, comme vous le disiez à l'instant, ce disque à une vitesse vraiment incroyable, on a presque l'impression que chaque geste est pensé, il est pesé au trébuchet. C'est vraiment un travail de précision que ce toucher.
C'est ça, parce que j'ai, disons, épousé justement l'instrument. Et tu vois, les mélodies, les harmonies qui venaient dans ma tête, et je me suis surpris en train de restituer ce qui était en moi comme musique. Et c'est ça, justement, le côté technique était vraiment au second plan.
C'est-à-dire que l'intention,
ouais.
C'est-à-dire ce que vous avez en vous,
ouais.
Le message, l'émotion surtout, voilà. Que vous voulez passer, c'est encore plus important que la technique.
Tout à fait. Ça passe au premier plan. J'aurais pu jouer très dextérité, rapidité, non, mais en fait, non, j'étais plus intimiste. Je voulais être beaucoup plus focus sur ce qui est en moi.
Mais c'est instinctif, justement, ce jeu-là, quand on enregistre un album comme celui-ci, ou bien ça nécessite une préparation, une prise de recul par rapport à soi-même avant que l'enregistrement ne débute?
Ça dépend, il y a eu des circonstances où j'avais besoin de ce recul et de préparer vraiment à outrance. Par exemple, l'album Sarala avec Hank Jones, j'ai mis un an à le faire, une année entière. Donc, mais ce coup-ci, c'était pas le cas. Et bon, il fallait penser aux structures, penser à l'écriture, penser aussi justement au jeu. Et en tout ça en 72 heures, c'est pas évident.
Il est absolument magique ce titre, Niger River.
Yeah.
Chez Tidiane Seck, on s'y croit vraiment. Titre hommage évidemment au Djoliba, hein, comme les Mandingues appellent ce fleuve Niger qui traverse toute l'Afrique de l'Ouest et qui baigne en particulier votre ville natale, la ville de Ségou. Comment est-ce que vous pourriez décrire le fleuve Niger, non pas avec votre musique cette fois-ci, mais avec vos mots à vous?
La force tranquille.
La force tranquille.
Oui, elle est comme ça, même le sol, on dirait, je ne saurais pas expliquer, un autre monde. Moi, je suis né sur les berges du fleuve Niger. Et le fleuve Niger, moi, je pense qu'il vit. Et bon, il m'a emporté quand j'avais 11 ans. Et pendant plus d'un kilomètre, tout ça, sous l'eau. Et puis, je suis ressorti. Et donc, ce fleuve, j'ai un autre rapport avec. Et donc, le festival Fleuve sur le Niger.
Vous en êtes le parrain.
Ben voilà, depuis sa création. Et donc, je pense que oui, il fallait que j'aie ces mots-là avec mes doigts pour le fleuve.
Mais quand vous avez composé pour la première fois ce morceau, vous avez ces souvenirs-là en tête, ces images du fleuve Niger. C'est de l'image souvent que naissent les notes?
Oui, tout à fait. L'image, parce que je suis aussi... j'ai fait appel aussi à mon côté peintre. Je suis à la base peintre. J'ai enseigné la peinture 4 ans au lycée de Bas-de-la-Bougou, de 75 à 78. Donc, je pense que oui. Et je... j'ai le fleuve, j'aurais pu avoir une autre mélodie. Mais c'est justement ce parfum de Bamanan, de Malinké, et aussi un peu côté blues, Main Street, you know. Et je n'ai pas réfléchi et ça, le condensé de tout ça m'a donné l'enfant, cet enfant des rives, justement, parce que, étant de ce goût, et puis ayant grandi à Sikasso dans le royaume Senufo aussi, j'étais baigné dans l'énergie de cet environnement.
Et c'est précisément à Sikasso que vous avez posé les doigts sur le clavier de l'harmonium d'un couvent catholique. Vous nous racontez ce moment-là qui a été vraiment un moment de vie quotidienne et pourtant un moment complètement fondateur pour vous.
Oui, fondateur. Dans la mesure où il y avait mon mentor, mon exemple, c'était ma maman qui chantait divinement bien et qui refusait qu'on enregistre sa voix. Et donc, quand j'ai été à l'internat, pour les 3 ans là, et c'est une sœur catholique qui m'a appris justement le solfège et qui, à l'église, la découverte des touches noires et blanches que je connaissais mais sans vouloir toucher, mais dès les premières touches, donc j'étais conquis par cet instrument.
Et vous jouez encore de temps en temps sur un harmonium d'église?
Non, non, malheureusement, j'aimerais bien, ouais. Mais j'ai pas la chance. De temps en temps, chaque 10 ans, 15 ans, je peux dire, tout ça. Ça, il m'arrive d'en voir un dans un coin et puis j'essaye de me remémorer ces moments-là parce que c'était des moments magiques pour moi.
Alors, vous êtes attiré par le piano. C'est ce que vous disiez tout à l'heure quand vous croisez un piano comme ça dans une salle. Vous avez une force incroyable qui vous attire vers ce clavier. Et donc, pour cet album, c'est donc ce piano du studio Piguel à Paris, un Steinway. Une marque évidemment extrêmement prestigieuse.
Tout à fait.
Quand on joue de la guitare, quand on joue du violon, quand on joue de la trompette ou de l'ocarina, on emmène son instrument un peu partout avec soi. Quand on joue du piano, c'est un peu plus compliqué. On en change souvent au fil des voyages, au fil des concerts. C'est évidemment pas facile à transporter. Comment est-ce qu'on noue une relation avec un instrument lorsque cet instrument-là n'est pas le sien?
Au premier toucher, j'essaie déjà si l'instrument, si un toucher, c'est dur pour moi, si c'est agréable à jouer, tout ça, je le sais. Et je m'adapte en fonction de l'instrument que j'ai en face de moi. Parce que à la base aussi, je suis guitariste. Et je joue de la guitare, tout comme les tambours, les dundung, malinké, mandeng. Et donc, et mes premiers instruments, c'était quoi? Guitare, basse, et puis les percus, quoi. Donc, et quand je viens et que je vois un piano, je au premier toucher, je sais quoi jouer. Hein? Et tu vois, j'ai un instinct qui m'amène justement à proposer justement ce qui est en moi en ces moments-là, selon justement le piano que j'ai en face de moi.
Alors, mis à part les deux titres dont nous avons écouté quelques mesures, donc Lambé et Niger River, on entend en réalité deux instruments sur cet album. On entend le piano et puis on entend votre voix.
Oui, tout à fait.
Une voix qui arrive souvent, pas toujours, mais souvent assez tard sur vos différentes compositions, comme s'il fallait laisser un peu le piano en liberté avant que votre voix ne le rejoigne. L'idée, c'était ça, c'est de laisser le piano s'exprimer et ensuite d'ajouter une touche supplémentaire, de le sublimer en quelque sorte par la voix.
Exact. C'est justement dans la dominante doit être le piano. Et la voix est comme une sorte d'accompagnement et d'agrément pour justement identifier ma personnalité par rapport à mon jeu qui n'est ni un jeu classique ni un jeu jazz. Je suis moi-même par rapport à ma propre technique que j'ai développée au fil des ans.
Mais alors,
inspiré du jazz et du classique et de la soul, de R&B, de la
musique. Vous avez construit votre propre style.
Exact. C'est un langage du balafon traditionnel, c'est de la kora aussi, c'est un langage de la lettre à Élise, c'est un langage du blues, les 12 mesures, etc., etc. Donc, c'est un condensé de tout, en fait. Mais la résultante de tout ça a créé ma personnalité.
Et donc votre voix aussi. Est-ce que la voix, vous qui êtes multi-instrumentiste chez Tidjansek, est-ce que la voix est un instrument de musique comme les autres?
Tout à fait. Pour moi, elle est complète. Je me souviens des années où, dans les années 70, on me payait pour interpréter mon ami et mon frère Salif Keita, par exemple. Et ma mère étant une grande chanteuse, j'ai beaucoup appris de l'école, mais il y a un héritage aussi quelque part. Une oreille assez développée, ce qui fait que j'arrivais à faire des techniques de voix, justement, qui n'importaient que moi. Je me suis jamais considéré comme chanteur. C'est tout le temps les autres, quand je chante, mais tu devrais chanter plus ça. Je me prends au jeu. Sinon, les albums afro-pop que j'ai fait, sur tous ces albums-là, je chante. Et j'ai formé pas mal de jeunes générations qui, après, ont fait carrière.
Kana Kassi, c'est le morceau qui ouvre ce nouvel album de piano solo chez Tidjansek, un morceau ancré, je crois, dans la tradition mandingue.
Exact.
Que nous raconte-t-il?
Tout à fait. Ne pleure pas, fils du roi. Comme dans mes regrets, c'est ma voix. Ce jour-là, je n'avais pas de voix du tout.
Ah bon?
Oui, je venais de Bamako et j'étais enrhumé. On l'entend dans ma voix. Si je dois le chanter, ma voix, elle va être beaucoup plus tranchante que ça. Mais j'aime cette voix-là aussi. Tu vois,
c'est il ça. Il faut savoir s'adapter. Il faut aussi faire face parfois à l'adversité et aux difficultés, même quand les événements sont imprévus.
Exact. Je ne pouvais pas reculer. J'ai dit, OK, je vais chanter. Et c'est ça. Bon, ça donne cette voix rocailleuse.
Voilà, et donc c'est une chanson qui raconte un épisode de la vie de Samori Touré, hein, c'est ça qui est...
Non.
Non, pas du tout.
Non, Samori, le fils. Oui,
le fils.
Mais c'est un épisode très sombre, oui.
Très sombre.
Ouais, ouais.
Cette, justement, on est donc dans la grande histoire, dans l'histoire, ouais. La transmission, justement, qu'il s'agisse de la transmission de l'histoire ou de la musique, c'est, je crois, quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. Vous parliez du festival sur le Niger.
Tout à fait.
Tout à l'heure, transmettre, des histoires, transmettre des notes, transmettre des traditions aux nouvelles générations. Vous êtes très impliqué là-dedans, avec l'UNESCO aussi, je crois, par exemple.
Mais oui, parce que j'ai créé les concepts culture croisée, justement pour pouvoir briser les frontières. Et mes expériences avec, que ce soit Jimmy Cliff Santana ou Paix à son âme, peut-être, je vous prépare.
On ne peut pas tous les citer, mais voilà, ils sont très, très voilà, nombreux.
Donc, mettre en exergue tout ça et justement faire jouer des styles, parce que j'ai arrangé pour des groupes hindous, arabes, latino-américains, maliens, caribéens, etc., etc. Donc, fort de toutes ces expériences, pourquoi ne pas faire se rencontrer différents styles? C'est un exercice que j'aime, la fusion dans les genres, en fait. C'est ce que j'ai essayé et peut-être apparemment réussi quand je fais la rencontre avec Hank Jones dans l'album Sarala, etc., etc. Donc, du coup, pour moi, j'initie 25 jeunes, par exemple. Au départ, c'était ça. Mais on s'est retrouvé à 60 à l'exercice du jazz à travers la musique qu'ils connaissent déjà. Mais sans, je dirais afro-jazz. On ne peut pas dire que c'est du jazz. Comment on appelle ça encore? Le bebop, le ragtime, c'est pas ça. C'est du jazz originel, je dirais. Parce que, regarde, dans ma période électrique, j'ai fait un album Mandin Groove et là-dedans, il y a Toba Animato. Toba Animato, quand tu l'écoutes, tu as l'impression d'écouter Dave Brubeck. Alors que ce morceau est dans la tradition, il était comme ça, les canevas, sauf que je l'ai pris, j'ai réarrangé les structures rythmiques pour donner cet emprunt-là, tu vois.
Et sur ce nouvel album, il y a un morceau très ancien qui remonte au temps de l'esclavage aux États-Unis, un morceau qui s'appelle Motherless Child, que vous avez remis au goût du jour avec un couplet très particulier. On écoute, on en parle dans un instant.
Sometimes I feel like a motherly child. Sometimes I feel like I'm almost gone. Thank you.
come willing to be. Come in the me for a talk. Come on, don't be me. Come in the me for.
Brotherless Child, il y a la force du Negro Spiritual très émouvant, et puis il y a votre émotion à vous avec ces mots en Bambara.
Tout à fait.
Fait que Didier Seck, pourquoi ces mots en Bambara?
Parce que en 1982, j'étais dans mes moments où j'étais pas du tout en phase avec le show business, comme ils disent. Je me cachais dans le Jezebel où j'ai pu justement jouer, accueillir Nina Simone. On a joué pendant deux heures. Et Barry White, et comment il s'appelle encore l'autre? Il s'appelle David Bowie, etc. Bon, ils venaient tous et jouaient. Bon, le seul qui n'a pas jamé avec moi, c'est monsieur Johnny Hallyday, que j'avais interprété moi dans les années 70. Mais donc, dans ce club-là, je devais jouer pour M. Robert Hossein. Et ce soir-là, on m'annonce le décès de ma maman, sachant qu'elle m'a eu à l'âge de 50 ans et que c'était une chanteuse extraordinaire. J'ai voulu lui interpréter Marvelous Child, que j'aimais beaucoup depuis les années 70, et je n'ai pas pu finir le morceau. Et donc, c'était un moment, je chante en bambara en disant « Ah, je me sens justement orphelin de cette maman-là, qui m'a tout appris sans rien me dire. »
Voilà, hommage à votre mère, et hommage aussi depuis le début de cette émission aussi à tous les grands musiciens, à tous les grands artistes, instrumentistes ou vocaux que vous avez croisés, que vous avez accompagnés dans votre vie. La liste est vraiment impressionnante. Vous avez un sacré CV, vous en avez cité quelques-unes, j'en ai cité aussi quelques autres, mais bon, la liste est vraiment, est vraiment impressionnante. Alors, la musique, vous l'avez clairement dans la peau, vous avez votre style à vous, vous êtes capable aussi de vous adapter au style des autres. Et vous le disiez vous-même, quand vous êtes entré à l'INA, l'Institut National des Arts de Bamako, vous n'avez pas choisi la section musique, vous avez choisi la section peinture. Alors ça, c'est quand même assez mystérieux. Pour quelle raison?
Pas du tout, parce que j'en savais beaucoup plus sur la musique.
Vous n'avez pas besoin de cours et d'enseignement?
Non, j'avais besoin, mais j'avais déjà 3 ou 4 ans de solfège avec le couvent. Et donc, quand je suis arrivé là-bas, et comme depuis le jeune âge, de tout le temps, je suis dessiné. Et j'étais portraitiste, et je sais peindre aussi. Et ça, c'était naturel pour moi, la peinture. Mais je n'en savais pas sur la méthodologie, et la technique de la peinture. J'ai voulu développer ça autant que j'avais la musique. La preuve est que, étant en deuxième année peinture aux Beaux-Arts, j'encadrais les 4e année sortant musique de l'Institut National des Arts du Mali. Donc, à ma 4e année peinture à l'INA, j'ai animé la soirée de fin d'études de Beaux-Arts aussi, et à l'orgue.
Vous continuez à peindre aujourd'hui?
Maintenant, oui, j'ai Après 40 années, oui, j'ai regardé, quand je vois une toile, ça me parle tout le temps. Donc, j'ai recommencé à bédouiller. Oui, oui, effectivement, j'ai commencé à... Et puis, mon producteur m'a dit, mais tu devrais... J'ai dit, mais oui, il est temps que je commence aussi à visiter cette autre partie de moi.
La musique, la peinture, la littérature aussi est présente sur ce disque à travers un titre hommage à un immense homme de lettres et d'engagement, Aimé Césaire. C'est l'écrivain ou c'est l'homme politique que vous avez voulu honorer ?
Et j'ai été invité pour les 120 ans de l'abolition de l'esclavage en Fort-de-France. Et Aimé Césaire, qui est un des chantres de la négritude, m'a invité à la mairie et je suis venu à la mairie. Je lui ai donné un livre selon lequel nous avons le dernier empereur Mandingue a découvert les Amériques un siècle avant Columbus.
Avant Christophe Colomb.
Voilà. Donc, Aboubakari II. Il a pris le livre, il a écrit avec Cheikh Tidiane, dont la musique nous accueille au seuil de l'Afrique nouvelle, Aimé Césaire. Pour moi, je considérais ça comme ma première victoire. Tu vois, c'est plus qu'un Grammy ou une victoire de la musique pour moi, venant de lui. Hein? J'ai composé ce morceau avec un texte de Birago Diop, aussi un autre immense écrivain, et on lui rendra hommage, tu vois. Merci, Aimé Césaire.
Birago Diop et Aimé Césaire réunis par la voix, par les mots autour du piano de notre invité, Cheikh Tidiane Seck. C'est quoi pour vous la négritude aujourd'hui ?
Aujourd'hui, c'était un mouvement de révolte contre justement les discriminations de tous bords, tu vois. Donc, on revendiquait cette identité justement pour justement composer dans les concerts universels sans division, en disant arrêtez de nous regarder du haut de vos peurs, mais plutôt on est les mêmes, quoi. Tu vois, quand un breton ou un basque ou un viking ou un malinque ou un bamileke saigne, c'est du sang rouge qui sort.
Et vous vous inscrivez aujourd'hui pleinement dans cette lignée-là
ou bien mais moi, je suis guevariste, Che Guevara.
Oui, voilà. Guerrier, toujours.
Tout à fait. Et bon, après, mais ils m'ont surnommé Black Buddha, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais bon, j'ai eu tellement de sobriquets. Donc, en fait, je me dis seulement, je prône l'amour des uns et des autres et des genres. Parce que je ne suis pas du tout enclin à un style, hein, ou à je ne suis pas communautariste. Je suis pour l'ouverture de tout parce que l'amour existe en tout.
« eu des périodes sombres. Mon peuple s'y cherchait. La clé de tout reste le pardon. Nul ne pourra dicter une conduite céleste. Un peuple qui a tant souffert. Balade ne veut pas dire condamnation. Nous devons nourrir et prôner l'union sacrée de tous les enfants de la terre.
Ce titre, c'est une sorte de manifeste, Fakhtidensek, manifeste pour le pardon, pour la compréhension, par l'union, pour l'ouverture. C'est ce que vous expliquiez à l'instant. Mais ce morceau, ce qui est donc le dernier morceau de ce nouvel album, il s'intitule Corona. Oui. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est l'enfant d'un mauvais souvenir pour vous.
Hein. Et oui, je ne pensais pas qu'aujourd'hui allait être possible et que j'allais vous parler là. Parce que le 1er décembre, à Bamako, j'ai été frappé par la forme la plus grave du coronavirus. Et donc, on m'a maintenu dans les masques à oxygène pendant 8 jours, avec plein de médicaments. Donc, je ne veux pas dire certains, la pharmacopée, parce non. que je n'ai pas envie qu'on me recherche après, tu vois.
Oui.
Donc, j'ai vécu des moments où, réellement, pour moi, la messe était dite. Pour moi, tout était fini.
Vous avez senti la mort approcher?
Ben, non, c'est pas pire que ça. Éveillé, j'ai vu, j'ai un long tunnel, et puis en noir et blanc. Et au fond du tunnel, il y avait mon aîné Manu Dubango qui parlait avec Tony Allen. Les deux sont partis. Hein.
Absolument.
Et donc, je leur parlais, ils refusaient de me répondre. Et ça a duré. Combien de temps, je ne sais pas. Et je sors de cette forme de sommeil qui n'est pas un sommeil. Je ne dormais pas pourtant, pour dire je rêvais. Et donc, pendant 8 jours, c'était dur. Hein. Et chaque fois, le médecin, quand il arrive le matin, il dit ah, « tu as beaucoup de chance hein. ». Tu vois, ces jours-là, à côté, dans la même semaine, et j'ai vu au moins 7 personnes partir.
Oui, Manu Dibango que vous évoquiez à l'instant, il a eu moins de chance que vous, puisqu'il il a succombé effectivement, au tout début hein, de la pandémie.
Dès le début, oui, il y a eu Manu Dibango, il y a eu Pape Diouf, il y a eu Orlis Mabele, il y a eu etc. Christophe, il y a eu Bill Witter, il y a eu Maurice Kanté, pas pour les mêmes raisons, mais oui, mais quand même, s'il n'y avait pas eu le confinement, peut-être qu'il aurait pu venir. Tony Allen, c'est du même. Le confinement, là, c'était pas quelque chose de facile, hein, quand même.
Mais alors, on n'en sort pas indemne, évidemment, d'une telle épreuve. Est-ce que votre regard sur vous-même et votre regard sur la mort a changé depuis Fakhtidensek, depuis cette épreuve-là?
Non, depuis ma naissance, j'ai fait mon deuil. Donc je me dis, ça viendra, parce que c'est un rendez-vous que nul ne peut décliner. Tu ne peux pas demander 2 secondes de plus, ou quelques minutes, ou tout ça de plus. Il est hors de question. Quand ça doit venir, je me suis dit que oui, avant que ça vienne, je vais aller dans le positif le plus possible. C'est ça qui est mon moteur à moi. Sinon, me dire ou angoisser par rapport à ça, non, j'ai jamais. En fait, je suis prêt déjà.
Vous êtes prêt?
Oui.
Et vous êtes prêt aussi pour le concert ce soir, dans un genre un petit peu plus gay, sans doute,
au
New Morning,
Black Live. Yes.
Et puis, autre concert, alors ça c'est très particulier, c'est ce week-end au Bouffe du Nord,
oui.
à Paris, dimanche,
à 13h,
oui. Piano solo, alors c'est un marathon.
Exact, il y a 13 pianistes. Et moi, bon, ça commence à 11h, et moi, je joue à 13h. Je dis, ah, tant mieux. Vous voulez laisser un Bouddha jouer en pleine journée comme ça, d'accord. Et donc, je vais être à la hauteur. Je vais veiller à essayer d'aller en communion plutôt avec le public qui gère voilà. En face de moi.
Donc au Bouffe du Dor, qui pour moi est l'une des plus belles salles de Paris, salle de théâtre et salle de concert en même temps. Merci beaucoup Cheikh Tidiane Seck d'être passé nous voir.
Merci.
L'album Kelena Folli disponible chez Comos et bonjour à vous Laura Dulieu.
Bonjour Jean-François.
Weyo. Oh Maliko, tu amedu fije me yengal de manelen mame te fanyongi ne diño. Oh Maliko, tu amedu fije me yengal de manelen mame te fanyongi ne diño. Oh Maliko, tu amedu fije me yengal de manelen mame te fanyongi ne diño. Oh Maliko, tu amedu fije me yengal de manelen mame te fanyongi ne diño.
We shine like diamond. Dame taku meli diamond. We shine like diamond. But abadan diamond.
New bad girl on the way ya. Mash up the thing every day ya. Chika wak chisu fa chibira chibiti hota kene chisu nyu way ya. Gane sinyo ya mi bay ya. Number one hot sugar player ya. Chok bidai failing a jireng a bay sama nyak lai like anyway ya.
Heaven down no money.
On va continuer, Laura, à parler musique avec vous, car ce week-end, c'est Africolor, la 34e édition de ce festival nomade en Ile-de-France autour de Paris, donc avec une programmation riche, dont ces deux Sénégalaises qui seront sur scène samedi et dimanche pour célébrer la musique sénégalaise et le hip-hop.
Et vous venez d'entendre un extrait de leur passage au Dakar Music Expo. C'était la première fois qu'elles jouaient leur morceau sur scène. Et vous avez peut-être reconnu une référence à Rihanna dans le morceau. Pourtant, bel et bien sénégalais, c'est toute la recette de Def Mamadef, de stars, deux reines dakaroises. Elles sont à l'heure actuelle en train de boucler leurs valises, voire déjà à l'aéroport et croyez-moi, elles sont très en forme pour leur première date parisienne. D'un côté, la rappeuse Mami Victory et de l'autre, la chanteuse Defa. Donc Def Mamadef, c'est d'abord un mix de leurs deux noms, mais pas que. En Wolof, ça veut aussi dire, c'est elles qui me l'ont expliqué, ça veut dire littéralement « vas-y, fais-moi, je te fais ». On peut le comprendre de plusieurs façons. D'abord, quelque chose comme « vas-y, fais-le et tu verras, tu auras un retour du karma », donc plutôt provocateur. Ou alors un sens plus positif, on peut comprendre Def Mamadef comme donnant-donnant. Bref, plusieurs interprétations possibles. C'est surtout Def Mamadef, le mélange complémentaire de deux univers médicaux, mais médicaux, musicaux plutôt.
Oui, musicaux, mais ils peuvent aussi faire du bien de temps en temps.
Chacune a déjà sa carrière musicale au Sénégal. Mami Victory, je vous le disais, c'est une figure majeure du rap galsen. Defa est chanteuse, elle a fait partie de plusieurs groupes comme Refa ou Safari. Et leur amitié, elle date de bien avant ce projet. C'est Mami Victory qui l'explique.
C'est vrai qu'on traîne ensemble depuis pas mal de temps, ça fait quand même des années. On a commencé à faire des sons sans pour autant penser à faire un groupe. Et un jour, on est allé voir un concert au Dakar Music Expo, qui est un salon de la musique qui se passe ici à Dakar, au Centre culturel français. Et après le concert, on était posés sur une table en train de manger, papoter. Et c'est là qu'on a rencontré Monsieur Doudou Sarr, qui est aujourd'hui notre producteur et manager. Et il nous a vu chanter sur la table, faire du délire. Et de loin, il a su que vraiment, il y a du potentiel. C'est à partir de là qu'on a décidé de faire un projet.
Et c'est comme ça qu'est né Def Mamadef, avec la volonté de développer la scène hip-hop sénégalaise. Car aujourd'hui, si le rap occupe le devant de la scène dans beaucoup de pays dans le monde, ce n'est pas vraiment le cas au Sénégal. La scène rap sénégalaise existe, bien sûr, mais elle n'est pas encore majoritaire face au Mbalar notamment. Ça change doucement, mais sûrement, selon Mami Victory.
Ça commence à évoluer avec une vague, une nouvelle génération, beaucoup plus ouverte, disons. Une nouvelle génération qui touche à tout. On trouve aujourd'hui des rappeurs qui chantent, des rappeurs qui toastent. Le Mbalar aussi est urbain. Le Mbalar est une musique très urbaine ici au Sénégal. C'est vrai que le rap n'est pas la musique numéro un au Sénégal, d'accord? Mais maintenant, ça commence vraiment à se frotter au Mbalar, s'égaler un peu à la scène musicale Mbalar qui est beaucoup plus populaire maintenant.
Donc influence rap, donc, mais aussi les racines sénégalaises.
Oui, c'est un savant mélange de textes en wolof et en anglais, un équilibre de mélodies entre la musique sénégalaise et les influences hip-hop internationales. C'était flagrant dans le morceau qu'on a écouté. Et ça ne se crée pas en claquant des doigts, ça prend du temps. Defa et Mami Victory sont partis d'un point de départ, leur patrimoine musical.
Le concept de Def Mama Def, c'est « think local and act global ». C'est-à-dire que notre musique est vraiment ancrée sénégalais et africain avant d'être sur le marché mondial. En fait, il y a eu de la recherche avec Def Mama Def. La recherche a commencé déjà par le patrimoine culturel sénégalais. On s'inspire beaucoup de la musique ancienne sénégalaise. On s'inspire des groupes tels que Khalam 2, Super Étoile, Étoile de Dakar, Super Diamono. C'est des groupes qui ont vraiment marqué la musique sénégalaise. On est allé aussi chercher du côté urbain, actuel, ce qui se fait maintenant, populaire aussi. Ça nous a pris un an. On est allé voir vraiment des soirées 100% sénégalais. Il y a des séances de tam-tam qu'on appelle le sabar et des concerts juste pour voir comment justement on peut faire un mix pour vraiment créer notre propre touche à la musique africaine.
Une touche résolument tournée vers l'international, c'est là toute l'ambition de ce projet. Il y a réellement une place à prendre selon les deux artistes parce que la scène hip-hop sénégalaise, si elle existe et se développe de plus en plus, elle est encore aujourd'hui toujours très locale, d'où la volonté d'exporter cette musique au-delà des frontières, représenter le public sénégalais et ses goûts musicaux à l'étranger.
D'autant plus d'ailleurs en tant que femme.
Et oui, défi supplémentaire, exporter la musique urbaine sénégalaise, le tout en étant des femmes. C'était clairement pas la voie la plus simple, mais c'est le cœur de Def Mama Def, deux femmes et même trois. Elles sont accompagnées de DJ Zeyna, grande DJ sénégalaise aussi. Trois musiciennes qui refusent de se fixer des limites.
Pour nous, c'est une responsabilité, en fait, de faire bouger justement cette scène-là. Surtout en tant que femme, parce qu'il n'y a pas une seule femme hip-hopeuse au Sénégal qui fait aussi les grandes scènes internationales. Le hip-hop, naturellement, est un milieu très macho. Mais nous, on ne se met pas dans la tête, en fait, qu'on est des femmes. Donc, on doit être relégué au second plan. Nous, on ne se fixe pas de limites. Ouais. On voit des scènes ici au Sénégal, par exemple, où c'est 100% masculin. On connaît notre potentiel. On sait jusqu'où on peut aller et tout ce qu'on peut faire. Donc, à un moment, on s'est dit, il faut qu'on occupe justement cette place-là. Le déclic, c'est juste le fait d'être stigmatisé un peu en tant que femme au Sénégal. C'est ce qui nous a fait vraiment croire en ce projet et nous dire qu'en tant que femme, on aura vraiment les épaules pour porter ce projet.
Voilà, et le projet, donc, on en a entendu un extrait, il sort en début 2023. Avant-hier est sorti Djere Djeuf, vous en entendez quelques notes. Un son en soutien à l'équipe nationale de foot du Sénégal. Mais surtout, surtout, elles sont à retrouver sur la scène d'Africolor ce week-end. Notez bien, samedi 19 novembre à 20h30 au Canal 13 à Bobigny et dimanche 20 novembre à 18h au plan Harris-Orangis. Énergie garantie.
Merci beaucoup Laura Dulieu. Rendez-vous est pris dans un instant. Le journal, notre rendez-vous demain dans VMDN. La chanteuse Lou Sen de Yakuza sera avec nous pour nous présenter son nouvel album Yota chez Sony Music et vous m'en direz des nouvelles. You're not getting tired.